création
on air.
On air.
On air.
Creation on air.
Bonsoir. Il y a un biophysicien, Vincent Fleury, directeur de recherche au CNRS, travaillant à partir d'embryons de poulets sur la morphogénèse des tétrapodes. Un ethnologue, Michel Bocara, chercheur au CNRS, spécialiste de la civilisation des Indiens yucatèques. Il y a des musiciens improvisateurs, Géraldine Keller, Benata Tchari, Benjamin Bourdonneau et Raphaël Saint-Rémy. Il y a une peluche, une araignée, des coquilles Saint-Jacques. C'est en public, au Studio 105, le 29 avril 2017, en compagnie de créatures comme le riwag, le télomon et particulièrement le rimiche. Animaux en voie d'apparition, une réalisation de Gilles Mardy-Rossian, création On Air.
Animaux en voie d'apparition de Raphaël Saint-Rémy et Benjamin Bourdonneau.
Par définition, le cerveau pense par image, et la déformation du cerveau, c'est de penser que toutes les formes ne sont que des images. Notre mémoire se reporte à un stock, ce stock est statique, et depuis Platon, ce stock d'images est vu comme incréé, sans échelle, intemporel, immatériel. Donc, en première approche, l'imaginaire se représente les formes comme des flashs mentaux. Je pense sphère. Alors, quelle que soit son échelle, c'est une sphère. Sur l'écran, sur mon ordinateur, n'importe où, la sphère est sphère, quelle que soit sa taille. Mais en réalité, le monde ne fonctionne pas avec un stock d'images. Le monde fonctionne plutôt avec un stock de phénomènes, un stock de lois physiques. Et la nature va chercher les formes en exécutant des phénomènes physiques qui construisent matériellement les formes. Donc quand je vois sphère, je ne vois pas une sphère, je vois une bulle de savon qui a été créée par quelqu'un qui a soufflé dans la bulle pour la faire. Et quand je vois cube, je vois en fait des atomes et je vois un processus de condensation qui a créé des atomes, qui les a posés les uns derrière les autres dans un cube, et ça a pris peut-être des dizaines de milliers d'années. Je vois croix. Et dans la nature, dans les grottes, vous pouvez trouver des cristaux en forme de croix qui sont des défauts de la nature. Donc depuis des siècles, les physiciens ont labourer les lois de la physique et on produit des théories ou des expériences pour expliquer des formes de la nature, les cristaux, les bulles de savon, et puis des objets ici comme les squelettes de radiolet ou comme les cœurs de tournesol. Et au fil des années, on a attaqué des problèmes de plus en plus compliqués et on est capable de traiter des problèmes comme la croissance des flocons de neige qui condensent ou la croissance des poumons vus comme des espèces d'arbres, de branches, qui branchent les unes sur les autres indéfiniment, font des dizaines de mètres carrés. Alors l'impression que ça donne, c'est que en fait, le néant s'oppose à l'être et que des formes essayent d'advenir depuis toujours. Et alors, par exemple, l'image à gauche ici, c'est un éclair. Donc, quand il y a une différence de potentiel, alors on va dire une tension, les tensions tendent à créer des formes. Donc, par exemple, les éclairs, fugacement, on va avoir des formes très compliquées qui vont apparaître, comme ici, dans un morceau de plastique. Alors, quand on regarde les individus, on peut leur trouver des vaisseaux sanguins. Et la science actuelle montre que les vaisseaux sanguins ressemblent à des éclairs. Donc effectivement, une sorte d'étincelle produit les vaisseaux sanguins dans les embryons. La physique des vaisseaux sanguins est très proche de celle des étincelles. Mais tout ça, ça n'explique pas comment les individus se sont arrachés au néant. Quelle tension dans l'univers est là pour que la survenue des animaux, des hommes, soit certaine. On est là par hasard, mais une chose est certaine, nous sommes là. Donc qu'est-ce qui s'est produit dans ce magma visqueux pour que les individus s'arrachent eux-mêmes du néant pour finir ou commencer dans un sac. Donc ce soir, on va vous donner à entendre quelle tension a fait sortir les animaux qui sont apparus.
Présentant chaque fois des particularités si spécifiques
qu'il me semblait vain de vouloir les rattacher à une souche commune.
Sauf à considérer le flou et l'incertain comme un tronc suffisamment solide
pour toutes ses branches.
Pour toutes ces branches
contraires.
Le rimiche brindille. C'est avec lenteur que le rimiche brindille s'aventure en lui-même. Il sait que chaque pas effectué dans un sens ou l'autre étirera son corps d'autant
qu'il portera toute son existence.
Toute son existence. Exploration.
Comme chacune de ses pensées, elle aussi provoque la pousse définitive d'un cil, d'une corde ou d'un semblant d'antenne. Les rimiches brindilles ne se livrent au dangereux exercice de la réflexion qu'en de rares occasions.
Il préfère le plus souvent visiter ces deux ou trois pensées anciennes,
s'étonner de leur forme, revivre intérieurement
avec toujours un léger frisson.
L'ambition de ce rimiche n'est pas de posséder un corps équilibré.
Ce qu'il veut, c'est s'accommoder du presque rien.
C'est quand on le sent prêt à rompre que le rimiche brindille est au mieux de sa forme.
Presque fier de la modeste audace qu'il a su exprimer, il estime avoir atteint l'objectif de sa vie et en reste là. Aux autres
aux autres origines du monde. Car le monde a plusieurs origines et les scientifiques se sont imaginés une histoire, parmi d'autres histoires, où il y avait quelque chose qui s'organisait dans le temps. Il y avait d'abord l'apparition des étoiles, puis ensuite celle de la pierre, puis celle de la plante et de l'animal, pour aller vite, hein. Mais en fait, l'homme, l'animal humain, ce dernier produit de ce que l'on appelle l'évolution, n'est pas du tout un produit qui s'inscrit dans le temps. Car il existe un espace hors du temps. Cet espace fait des trous dans l'histoire et on l'appelle le mythe. Le mythe fait des trous dans l'histoire et nous dit, et nous donne chaque nuit, lorsque nous rêvons, lorsque nous redevenons l'être originel que nous n'avons jamais cessé d'être, alors nous sommes à la fois la pierre, l'étoile, l'animal et l'arbre. Il n'y a plus de distinction. Il n'y a plus d'évolution. Nous sommes tout à la fois. Et le scientifique essaye de reconstruire quelque chose qui aurait du sens et qui s'appellerait la structure de l'histoire de l'évolution. La structure de l'histoire de l'évolution, ou encore la révolution de la structure. Mais aux origines, nous sommes toujours présents en nous. Vive les millions d'êtres qui sont là depuis le commencement du monde. Nous sommes tous là depuis le commencement du monde. Dans la forêt lointaine de notre existence, à une époque où l'homme a commencé à penser, il s'est imaginé qu'il était un être. Être, disait-il, la plus grande supercherie de l'histoire de l'humanité, être. Être quoi ? Être-on. Être, on, voilà le fantôme du social. Le fantôme du social est un étron. Et de la forêt lointaine, nous entendons les animaux humains qui en nous viennent hurler. Forêt lointaine, on entend le grand loup. Forêt lointaine, on entend le grand loup. Au cœur de son domaine, il répond au bateau.
Alors, je vais essayer de vous expliquer comment l'être s'est extrait de la viscosité initiale de la matière. Alors, en fait, la vie, c'est une viscosité qui a une volonté, en fait. Donc, au départ, la vie est née dans la mer et les choses, c'était pas vraiment des animaux, les choses étaient des sortes de rondelles molles. Du fait même qu'elles étaient dans la mer, c'était essentiellement de l'eau, mais de l'eau formant des petites galettes. Et en fait, ces galettes, formées de cellules, spontanément adoptaient une structure en anneaux, comme les cernes des arbres. Alors vous connaissez les cernes des arbres, vous savez qu'il y a une écorce, un aubier sous l'écorce, un duramen au centre de l'arbre. Quand on coupe un arbre, c'est ce qu'on voit. Et en réalité, les premiers animaux informes étaient comme des rondelles d'arbres extrêmement molles. Molles comme de la gelée de méduse, en fait. Mais une gelée de méduse comportant un anneau, un deuxième anneau, un troisième anneau, un quatrième anneau. Et cette gelée, elle a une volonté, la volonté de apparaître en tant que forme, de s'extraire du néant. La vie a horreur de l'informe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ces cernes molles, sous l'effet de la tension à elle, la tension de cette vie qui voulait sortir de la mer, s'est transformée en un animal.
Le personnage du loup.
Donc, la question, c'est comment une tension transforme des rondelles molles
aux confréries de loups-garous
en un chat
du Moyen-Âge.
La tension, elle s'exerce sur chacun des anneaux.
Et ceux qui sont
chacun de ces anneaux est un petit muscle bandé, en fait, qui tire
bien
sur la rondelle. Donc en réalité, la situation pour fabriquer des animaux, c'est des rondelles molles qui se tire d'anneau en anneau en anneau.
De la part animale de l'homme, qui s'échappe de l'anneau de son anus sous forme de vent.
Donc ce qui se passe
sous forme
dans un embryon,
vent.
C'est que la rondelle
sous forme de vent
se tire sur elle-même et s'enroule.
Écoutez le loup qui pète sur la pierre mouillée.
Alors la question c'est qu'est-ce qui se passe quand vous avez une rondelle qui se tire sur elle-même?
Le loup qui pète.
Alors on a beaucoup de chance.
Sur la pierre mouillée.
On a beaucoup de chance ce soir parce qu'on a un auditorium qui est rond.
Mouillé.
Et supposez que vous vous teniez tous par la main et que vous tiriez comme des malades, que vous voudriez sortir de vos fauteuils, bien le résultat ce serait ça. La moitié gauche de l'auditorium se mettrait à tourner comme ça. La moitié droite de l'auditorium se mettrait à tourner comme ça.
La plus grande illusion en sens inverse. De notre modernité.
Et il y a quelqu'un ici devant vous, madame, avec les lunettes. Vous seriez complètement écrasé par les gens qui s'aplatiraient sur vous. Alors j'aimerais pas être à votre place. Parce qu'en fait, cet endroit, c'est l'anus. Et en fait, vous seriez transformé en une sorte d'énorme anus. Et tout le monde
de l'anus s'engloutira
à travers vous
de la vie.
Par ce trou.
Ursus, ah quel ours et quel péteur. La multiplicité des êtres animaux implique que l'on ne peut se réduire à une animalité. De même qu'il y a plusieurs loups dans une meute, il y a des milliers d'animaux qui font sens pour l'homme. Des milliers d'êtres qui nous constituent. Depuis la bactérie des origines, toujours présente, jusqu'à l'homme, nulle progression, mais un chaos que nous ordonnons, qui s'altère, et dont nous nous désaltérons. Quel âge et quel péteur! La troupe des ânes et des ânesses, anarchistes par essence, arqués de l'âme et mère de la Vierge, elle aussi.
Tournoyante, qui a démarré par une espèce de rotation, traction, orientée vers l'anus. C'est-à-dire, il n'y a pas d'anus. C'est le phénomène lui-même qui s'introduit analement à l'intérieur de nous-mêmes et qui entraîne toute une partie de notre extérieur dans notre intérieur. Donc la formation des animaux, c'est d'abord un carrousel. Un grand carrousel qui rentre dans un petit trou, mais ô combien important. Et ce petit trou va nous tirer nous-mêmes de l'intérieur. Donc environ 50% de la gélatine est rentrée à l'intérieur, comme pour rentrer. Elle utilise cette tension, c'est la seule chose qu'elle a trouvée pour apparaître. Cette tension est transposée, pénètre à l'intérieur du trou et tire sur la surface. Elle rentre, elle tire sur la surface et petit à petit elle déforme la surface. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous avez quelque chose de très très mou et qu'on tire dessus? Ben, vous le savez bien, ça plie. Donc voilà à peu près comment apparaissent les animaux. Mais ce qu'on remarque, c'est que ça commence par un premier pli qui forme un espèce de tube, qui est le tube nerveux. Donc en réalité, au départ, on a des anneaux dans des anneaux dans des anneaux dans des anneaux. Et au fur et à mesure de la traction, on récupère un premier tube, un deuxième tube, un troisième tube, un tube nerveux, le corps, un tube digestif. Alors quelle est l'origine de ça? L'origine de ça, c'est que lorsqu'on tire sur un caoutchouc inhomogène, lorsqu'on tire sur du caoutchouc inhomogène, les parties centrales dures se referment en cylindre. C'est l'effet manche de chemise. Vous avez le poignet qui est rigide, la chemise qui est molle, ça va plier à la frontière entre le dur et le mou.
Le dur et le mou.
Donc on a une rondelle avec un anneau, un anneau, un anneau, on tire dessus, et le résultat, c'est un tube nerveux, puis le corps, puis les yeux, les vertèbres, et la traction continue et crée sa première vertèbre, sa deuxième vertèbre, sa troisième vertèbre, et toutes les vertèbres, jusqu'à la queue. Alors la différence entre les plis en caoutchouc et les plis vivants, c'est que les plis vivants, ils s'emballent et ils continuent tout seuls. Donc la tête bourgeonne à partir des plis qui se referment. Et les plis qui collisionnent, c'est comme de la pâte à modeler qu'on écrase. Ça remonte sur les bords. Et cette remontée sur les bords, ça s'appelle les yeux.
Ursus et Homo, ces deux animaux d'invention humaine, d'invention égo-hugolienne, d'invention égo-délirienne. Car Christus est Ursus, mais n'est pas Lupus. Il est irréductible, tel le grizzly sauvage, nul mutagénèse au sein de Sieur Ursin. Il est esclavisable, tel l'homme sauvage rasé qui traverse notre Moyen-Âge. Il n'est pas encore macronisé, mais l'ours se rebelle toujours et échappe à son dompteur pour lui croquer un bout de pied, un bout de pénis, un bout de doigt, un bout de cœur. Et ça lui fait de la peine à l'ours.
Qui dit non?
L'âne est un animal péteur, c'est-à-dire dont le souffle est divin. Et il s'est si bien pété qu'il est devenu le modèle de notre cycle calendaire. Ah, quel ours et quel péteur! Ah, quel ours! c'est quel péteur. Son souffle s'échappe en déclenchant le printemps et il déborde hors langage comme Dieu, comme l'âne, comme Ganesh et comme la Vierge. Et comme la Vierge. Et comme la Vierge.
Toute une constellation de fureurs, chacune se faisant l'étendard de la terrible et permanente colère qui l'habite.
Quel péteur!
Il vaut mieux ne pas voir sur Imiche! Son souvenir noircit les pensées. La trace qu'il laisse au dos de nos images secrètes empoisonne nos rêves. Rémiche le craigne et l'évite. Il ne veut voir personne et cela vaut mieux. Apercevoir ne serait-ce qu'un de ses plus discrets satellites et l'annonce d'un avenir très sombre, très sombre, très sombre.
Alors,
comme je vous ai expliqué, les forces tirent sur les tissus de l'intérieur. Ça provoque des plis organisés. Donc, si vous
Si vous vous demandez ce que c'est qu'un animal, c'est en fait une matière molle qui s'est tirée d'elle-même et qui, au départ, était faite de ronds concentriques. Et les ronds concentriques se transforment en tubes. Alors, quand ces tubes sont arrivés à peu près à cette situation-là, évidemment, on ne reconnaît pas Harimiche. Mais les tubes continuent à se tirer de l'intérieur et à plier. Et moi, j'arrive pas à faire un animal avec ça. C'est pas bien, c'est pas assez mou, c'est pas assez visqueux. Et la force vient de l'extérieur, c'est ma main qui tire dessus. Mais dans l'embryon, la force est uniformément répartie dans la bête. Elle tire de façon uniforme, point par point.
Dans la bête.
Et le résultat, c'est que petit à petit, le tuyau plie.
Plie.
Et s'engloutit la bouche sous les ouvertures qui forment les yeux. Et donc petit à petit, cette viscosité qui a une volonté, elle commence à sortir. Et on la voit qui tire et sa bouche se forme, ses yeux se forment.
Plie.
Et on reconnaît le premier animal. Ça y est, il a réussi à s'extraire du magma. Le tuyau, le visage, la bouche, les yeux. Et passé ce stade-là, il y a une sorte de repos. C'est-à-dire que l'animal est fait. C'est l'archétype. Le premier animal qui a une tête, un œil, une bouche. Et ensuite, les autres sont des variations. Ils apparaissent par extrusion, extension, étirement d'un phénomène qui a été beaucoup plus douloureux dans son début. Donc les animaux vont se ressembler beaucoup à partir de celui-là. Avec une petite nuance qui est nous, mais les amniotes, on se fait en plus un sac. Alors comment on fait un sac une fois qu'on a fait un animal allongé dans une plaque molle? La queue tire, elle gratouille la surface et ça déclenche une nouvelle tension qui emballe le bébé. Si ça n'a pas lieu, vous êtes une grenouille. Si ça a lieu, vous êtes une tortue, un lézard, un homme. Et ce sac poursuit sa lente fermeture. Jusqu'au moment où se déclenche une étincelle qui produit la formation d'un arbre qui est l'arbre vasculaire, les vaisseaux sanguins. Alors on peut se demander pourquoi tout à coup une étincelle se déclenche à l'intérieur de l'embryon. Et la réponse est très simple, il faut aller la chercher de l'autre côté. D'un côté, ça fait des tubes. De l'autre côté, ça fait des tubes aussi. Traction. Tube. Et qu'est-ce que c'est le tube de l'autre côté? C'est le cœur. Et c'est le battement cardiaque qui projette une étincelle de vaisseau sanguin qui décore tout l'animal. Et le résultat est un animal avec cette arborisation de vaisseau sanguin à l'intérieur.
Darwin dit.
Le Harimiche confus. Ce Harimiche est un buisson d'instinct peu sûr, un savant entre l'art d'ignorance.
Il ne veut rien savoir. Ses efforts vont vers le confus.
L'assurance d'aboutir à une absence de résultat
est la condition
de ses expérimentations.
S'il croit et s'élève,
c'est uniquement par multiplication de jointures hasardeuses.
Donc il semble guetter
avec amusement
et impatience.
C'est un empilement aéré de branchages, une hésitation qui aurait pris tort, un désir qui commence à s'exprimer.
Une tâche qui renonce.
Qui renonce, ah oui. À son unicité.
Alors, cette chose qui a réussi à s'extraire du magma, qui est partie comme une chose molle qui se tire dessus, elle s'est transformée en tube, elle s'est transformée en tête, elle s'est transformée en cerveau, elle a gonflé, elle a grossi, et le désir est apparu, et les artistes sont mis à concevoir des sons, à concevoir des formes, à dépasser les formes que la nature avait données, et à reproduire leur désir sur des toiles. Et à force de se pencher sur ce désir et à le regarder, le contempler, le peindre, petit à petit, ils sont revenus, tout doucement, à une image de nu, le corps de nu, de Matisse, qui redevient parfait, intemporel, sans échelle et incréé.
Le serpent ne pète pas, il siffle. Et siffler est une autre manière de laisser entrer et sortir le souffle. Plus continu, plus insistant, moins explosive, mais excitant. Car le serpent a deux faces comme Saint Janus ou Saint Janvier, une face pour l'amour et une fesse pour la mort. Les trous du cul, ce sont mains critiques modernes. Ils ont deux fesses, disons face. L'une de miel pour les faiseurs d'ignominie. L'autre de fiel pour les beaux gestes du génie. Les trous du cul, ce sont mains critiques modernes. Et ce qui sort de ces princes en anus, lorsque grince l'anus qui leur tient lieu de bouche, quelquefois c'est du vent, du crachat plus souvent, de la merde toujours. Être honte.
Je savais. Le mour, le pas, le babarnuc, la jodre, la boutrape,
le jdebut,
l'istragal,
le moy,
le tropolite,
le gufla,
le minu, le kino, le pâle,
les labores,
le jorpat,
le pyrame,
la bouille,
les nilek,
la berde,
l'alcal,
le jocasse,
le parent,
le dard,
l'entourage,
le dard,
la boutrape,
a du phasme bâton, les membres,
le bouillard, le bel,
et du virevoltant, la structure,
le villa, le
doué,
le rec a des canidés de pelage, la gueule aux dents pointues, la queue nerveuse, mais son corps tordu, plus précisément en courbe, de sorte que son museau sans cesse se trouve agacé par cette queue narquoise qui le devance en tout.
Le mouvement qu'il pense, ses articulations sont
le rec tourne sur lui-même sans cesse et repos, avide d'attraper cette part de lui-même à la fois insolente et fouillante. Il ne dort jamais. Infatigable, tournoyant comme une toupie, il est toujours à la fois dans la déroute.
Celui du singe, il lit son
hasard.
Mais qu'il demeure un seul instant à répéter entre ces deux états, c'est-à-dire qu'il soit pour un instant uniquement gueule ou uniquement que. Et aussitôt la vie, profitant de cette faille, s'échappe de lui et le rec s'effondre. Tu es net!
Étant ouvert à tout vent, il n'a pas de poumons. Il ne sait d'ailleurs pas si c'est à travers le monde qu'il court, ou simplement au-dedans de lui-même. Procession d'aimants attirant à eux l'informé et l'inabouti.
C'est dans cette spirale fugitive
que se découvre le Rimiche Gallo.
Le Rimiche Gallo. Les traces qu'il laisse sont des éclaboussures. Le
Le jlug, le jitok, le gis et gis,
si doux.
L'anta, le télomon, le rasard, le jaco, l'olcol, le caril, l'absolobe, le torn, le pneu,
le parogue. Chaque matin dans la bouche du parogue apparaît une langue nouvelle qui vient s'ajouter à toutes celles, large ou longue, droite ou tordue, immense ou minuscule, qui déjà l'encombre. Mais le parogue ne souffre pas de cet encombrement. Au contraire, il s'en réjouit. Et sa journée se passe à accorder cette langue aux anciennes et à jouir des possibilités nouvelles qu'elle apporte au trésor polyphonique que sa bouche contient.
Absolu. Le rémiche absolu, dépassant taille tout ce que l'on peut imaginer. Ses complantateurs, les plus mesurés, disent qu'il tournoie dans les ciels glacés des pôles.
Que c'est en son sein connaissent les tornades
et que l'océan est la sueur qu'il a produite en mettant bas le monde. Imprévisibles signaux. Affirme que c'est entre les planètes qu'ils volent.
Oh non, petite planète à nous.
Mais les grandes,
les lointaines, celles on ne peut pas voir.
Et que lui s'amuse à chahuter du bout de sa queue.
Lorsqu'il a un moment de loisir.
Ce qui est rare, car ses affaires sont d'importance. C'est lui qui explore les confins. Lui qui frotte sa longue masse aux parois vitreuses de l'univers pour y coller sa tête et observer de son œil unique ce qui n'existe pas encore.
Il est le gardien du cosmos.
La grande sentinelle.
Cosmos.
Il est le gardien du cosmos.
C'est lui qui freine notre dérive.
Cosmos.
La grande sentinelle.
Cosmos.
On lui prête des savoirs d'avant la connaissance. On dit que tout ce qu'il sait est notre nuit, et que les astres que nous voyons sont les écailles qu'il perd en s'ébrouant.
Tendance à l'agacer. Mais il sait quels sont le carburant de nos rêves. Et il ferme les yeux.
C'est-à-dire son œil unique.
Une grande paupière dont le battement dure plusieurs millénaires. Vient régulièrement recouvrir d'apparition de Raphaël Saint-Rémy et Benjamin Bondoni, avec Géraldine Keller, chant, voix parlée, flûte traversière, extension, Michel Mathieu, voix parlée, objet, Benat Achiari, chant, Vincent Fleury, biophysicien, Michel Bocora, sociomythologue, Benjamin Bondoneau, clarinette, objet, extension, Raphaël Saint-Rémy, piano, épinette, extension, équipe de prise de son, Jason Taous, Marie Le Peintre, Philippe Mercher, Stéphane Touvenin, Jean-Benoît Tétu, réalisation, Gilles Mardi-Rossian, attaché d'émission, Inès De Bruyne, production, coordination, Irène Omelianenko.
Création On Air est disponible en podcast et réécoute sur notre site. Demain à 23h, S'évader avec Benoît Bory, Charlotte Rouault, Annabelle Brouard.